Je pense que oui. D'ailleurs, à ma connaissance, je compte bien commencer la conférence par un fait d'actualité dont on a beaucoup parlé. C'est la fameuse publicité pour Adecco. Donc, très grande polémique, les conservateurs, les progressistes, la question éthique, obscénité au nom de la publicité. Et finalement, on ne met pas le doigt, premièrement, sur l'essentiel, c'est-à-dire le fait qu'au-delà du caractère obscène ou non de cette publicité, le plus obscène, me semble-t-il, c'est le message que véhicule cette publicité, c'est-à-dire un discours de propagande pour les emplois intérims, qui sont, on le sait, des emplois précaires. Alors, autre manipulation de cette publicité, le patron qui se déshabille, qui fait tout pour essayer d'obtenir les bonnes grâces d'une improbable salariée, il me semble que je dirais dans le monde social réel, mais que ne semblent pas connaître les publicitaires, c'est plutôt l'inverse. Donc, bon, voilà quelques-uns des éléments qui me semblent être la critique idéologique fondamentale de cette pub, au-delà du caractère esthétique, disons. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la télévision flamande VTM, qui est le pendant de RTL TVI, donc chaîne privée, chaîne qui masse un nombre considérable de téléspectateurs tous les soirs, a consacré il y a quelques semaines son émission Recht d'un tour, donc droit de réponse qui se fait, je pense, le dimanche, à l'instar de mise au point ou de controverse sur RTL-RTB, a consacré donc son émission, son débat dominical à cette affaire Adecco. Et selon la revue Média Marketing, qui a l'habitude d'être très bien informée, moi aussi j'ai regardé en partie cette émission, c'était un débat pour le moins orienté. C'est-à-dire que la plupart des personnes invitées sur le plateau, des intervenants, se sont déclarées en faveur d'Adecco. À cela, il faut rajouter le fait que la télévision VTM a, elle, dit, en opposition à l'RTBF, qu'elle ferait tout pour diffuser la publicité. On pourrait se dire finalement que il faut y voir là uniquement l'intérêt d'une chaîne qui reçoit des dizaines de millions de la firme Adecco et donc intérêt à diffuser cette publicité, voire même à mettre sur pied un débat plus ou moins manipulé où on soutient la firme Adecco, pardon. Mais où ça devient très intéressant et où on rentre vraiment dans une connivence de triple structurelle, ce que Media Marketing n'a pas dit, ce que personne n'a dit et sur lequel je suis tombé un peu par hasard, c'est que Patrick de Maisonnière, le patron d'Adecco n'est autre que l'ancien directeur commercial de VTM. Alors voilà un effet, il me semble assez explicite, de cette imbrication entre médias, finances et industrie. Et ici encore, Patrick de Maisonnière n'a plus de poste de responsabilité au sein de VTM. Donc imaginons seulement quels peuvent être les effets du contrôle des médias par les barons de l'industrie et de la finance en Belgique. On imagine sans peine ce que ça peut donner.
Pourquoi il y a beaucoup de coucherie entre monde financier, monde industriel et monde médiatique d'une part et de l'autre?
Alors, de coucherie, j'irai pas jusque-là. Enfin, je vois bien ce que vous voulez
C'est
dire
entre
par. Oui,
guillemets.
bien entendu. Il y a tout d'abord, il me semble, une connivence structurelle. C'est-à-dire que la plupart des groupes médiatiques en Belgique, qu'il s'agisse de la presse écrite, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, d'information générale ou économique, presse magazine, féminine, radio, télé ou écrite, sont sous le contrôle direct d'industrie et de secteur financier. Et les conseils d'administration ne sont pratiquement constitués que d'individus qui ont toujours actuellement, ou qui ont eu, mais pour la plupart qui ont toujours, des intérêts et des mandats dans d'autres secteurs de l'industrie et de la finance. Certains cumulent 40 à 50 mandats. Donc, entre parenthèses, cette question du cumul des mandats chez les hommes politiques, il me semble qu'on devrait aller voir un peu ailleurs. Mais bon, ça, c'est peut-être autre chose. Alors, sur la question des coucheries, donc, connivence structurelle, contrôle direct par l'industrie et la finance des médias en Belgique. Et alors, on a également toute une série d'incidents, de coucheries, si vous voulez, qui sont symptomatiques de cette connivence. Je vous ai parlé d'Adecco. Pourrais vous parler également de Guy Hellewoud, qui est l'ancien vice-président de l'AGJPB, donc l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique, qui a quitté son poste et qui est passé à la communication d'un holding qui a été pour l'année 99 le plus grand holding de Belgique qui a fait les chiffres d'affaires et les bénéfices les plus plantureux, c'est le holding Deleuze-Le-Lion, qui est également implanté aux États-Unis. Voilà un exemple. On pourrait dire également que Guy Duplat, ancien rédacteur en chef du Soir, n'est autre que le frère de Jean-Louis Duplat, président de la commission bancaire et financière. On pourrait dire que certains journalistes du Soir ont consacré des ouvrages pour le moins hagiographiques à des patrons de Belgique. Les exemples, il y en a des tas. Le problème, me semble-t-il, et là, je veux dire, je ne fais que répéter ce que Serge Halimi a dit d'une autre façon, c'est qu'il n'y a pas, comme en France, d'information sur l'information. Donc voilà quelques-uns des événements dont on parle très, très peu dans la presse, on peut comprendre pourquoi, et qui symptomatisent bien ce cadenassage de l'infrastructure des médias par le monde industriel et financier.
Vous venez de l'évoquer, il y a en Belgique très peu ou pas du tout presque d'informations sur l'information, alors qu'aux États-Unis, c'est institutionnalisé depuis des décennies. En France, ça commence à se faire et ça se régénère déjà alors que c'est relativement jeune. En Belgique, on dirait que c'est le désert. Comment ça se fait, d'après vous?
Alors, c'est une très bonne question. Bon, qui pourrait faire ce travail finalement de dénonciation au sens positif du terme, de critique de l'information ou du système médiatique? Les journalistes d'abord. On peut comprendre pourquoi ils ne le font pas. Situation de précarisation généralisée, soumis de plus en plus aux attachés de presse des hommes politiques et des dirigeants économiques, donc de moins en moins de temps et de possibilités de prendre un regard critique sur l'information et encore plus sur leur métier. Parfois, on n'aime pas de regarder ce qui se passe chez soi, d'une certaine façon aussi. Donc, en plus, les pressions, bien entendu, qui pèsent, qui sont énormes au sein des rédactions et les pressions des actionnaires sur les médias. On peut imaginer qu'un journaliste qui aurait l'audace de faire l'un ou l'autre article sur ce sujet, ça passerait. S'il venait en faire régulièrement, je ne pense pas qu'il resterait très longtemps au sein de la rédaction. Je pense que, comme beaucoup, il serait obligé de faire appel à Adecco, pour revenir là-dessus. Donc, les journalistes, on peut comprendre pour toute une série de raisons qu'ils n'ont pas d'intérêt ou qu'ils ne portent pas ce regard critique sur l'information et sur leur profession. Alors, on pourrait attendre ça, évidemment, d'intellectuels, d'universitaires, etc. Il y en a quelques-uns, mais force est de constater que la plupart des personnes. Il ne s'agit pas ici de faire un procès, bien entendu, mais la plupart des personnes qui travaillent sur le journalisme ou sur l'information, ou même sur l'économie des médias en Belgique, que ce soit dans les autres universités, l'Université de Liège ou dans d'autres écoles supérieures, pour la plupart, produisent un travail tout à fait honorable, mais qui est, disons, factuel, relativement historique, mais qui n'a pas cette dimension de critique et de radicalité. Donc, alors pourquoi? Là, on ne peut pas accuser les personnes, c'est très difficile à dire, les raisons doivent être multiples. Alors, je rajouterai aussi le fait que, à la différence de la France, il n'y a probablement pas en Belgique cette tradition du débat intellectuel et de la polémique entre intellectuels ou sur des questions véritablement de société, sur des questions aussi importantes que le rapport entre l'État, le capital, la presse, etc. en Belgique. Pour toute une série de raisons, parce que nous n'avons pas eu un mouvement communiste aussi fort qu'en France, donc nous n'avons pas une tradition d'intellectuels radicaux. Enfin, les raisons sont multiples. Il y a la chute du mur du Berlay et tous les discours sur la fin des idéologies. Enfin, bon, ça, c'est très multiple. C'est très difficile ici de répondre en quelques secondes ou même en quelques minutes sur les raisons de cette absence de discours critique de l'information sur elle-même. Mais voici quelques hypothèses.
Ouais. Pour en revenir au groupe média lié au groupe industriel, en deux mots, disons, qui dirige les médias en Belgique? Qui a la main là-dedans? Qui est l'homme puissant ou qui sont les hommes puissants en Belgique dans les médias?
Alors, bon, c'est difficile évidemment ici de donner tous les détails. Disons qu'il ne faut pas non plus tomber dans le mythe d'un complot généralisé d'une dizaine d'hommes ou d'une vingtaine d'hommes ou de personnalités fortes
Non, mais par
qui auraient
exemple, aux États-Unis, Chomsky soulignait que la moitié de tous les groupes médias étaient, disons, appartenaient à une cinquantaine d'entreprises, pas plus. Pour un pays comme les États-Unis, c'est révélateur.
Je pense qu'on n'en est pas loin en Belgique. La situation est plus ou moins la même. Alors, donnons des noms, puisqu'il y a des noms. On est là malgré tout également pour cela. Si on prend par exemple la presse quotidienne du côté néerlandophone, les principaux groupes sont La Vum, qui édite de Standard, Het Nieuwsblad, Het Volk, De Gentenaar, et qui a eu également pendant toute une période, et qui a toujours des intérêts dans Mediabel via la SBE. Bon, ça c'est La Vum. Alors, qui est derrière La Vum? Là, je dirais c'est probablement la personnalité la plus connue, c'est André Leysen. André Leysen, qui est président d'Agfa Gevaert, qui est administrateur de Tessenderlo Chimie, de GB InnoBM, de la Deutsche Telekom, vice-président du conseil d'administration, il y en a un, de Philips Eindhoven, membre du conseil de surveillance de Bayer à Leverkusen, de BMW à Munich, de la Deutsche Bank à Francfort, ancien président de l'AFEB, vice-président de l'UNICE, de l'ERT, et, très important, qui a appartenu au conseil d'administration de la Treuhandanstalt, excusez-moi pour la prononciation, qui n'est autre que l'organisation, qui n'est autre, pardon, que l'organisation qui procédait à la privatisation des anciennes entreprises d'État en Allemagne de l'Est. Donc il y a André Leysen, il y a donc la famille Leysen, il y a également des membres de la famille Vlerixta, qui ont très longtemps eu des intérêts donc dans le holding Gewaert, Tessenderlo, BASF, Tabacofina. André Vlerick notamment, je dirais le père fondateur vraiment de cette famille, a notamment été le président de Protea, qui était un lobby pro-apartheid en Afrique du Sud, Il faut dire, il avait des intérêts évidemment dans les groupes diamantaires qui pompaient en Afrique du Sud, donc ceci expliquant peut-être cela. On retrouve également derrière la Vume le baron Piet van Weyenberg, Fred Chaffard, ancien patron de la Générale de Banque, il y en a beaucoup. Alors, je n'ai pas le temps ici de passer en détail les autres groupes de la presse quotidienne néerlandophone. Pour la presse quotidienne francophone, bon, il y a Mediabel évidemment. Mediabel, ex Vers l'Avenir, c'est-à-dire tous les quotidiens du groupe Vers l'Avenir, également Radio Nostalgie et via Audio Presse désintéressé dans TVI. Alors, derrière Mediabel, on retrouve Philippe Delaunoy, ancien président de Coquerel Centre, administrateur à l'Union Minière. On retrouve Giuseppe Santino, administrateur à la Mosane, à Carmeuse, à Téplan. Jean-Géry Godeau, ancien gouverneur honoraire de la Banque nationale de Belgique. Guy Keutgen, administrateur délégué de la FEB et de l'UCB. Les familles Dumonceau de Bergendal, de Prêtrose de Kallusberg, c'est-à-dire Etterbrou. Bon.
Il y a aussi la grande vedette Albert Frère qui vient de
Oui,
mettre un pied
oui,
chez
alors oui.
Bertelsmann la semaine
Oui,
dernière.
là c'est très intéressant parce que Albert Frère, c'est à nouveau l'arbre qui cache la forêt. Barthes aurait dit c'est la vaccine, c'est le petit qui cache le système, si vous voulez. Enfin, le petit, façon de parler. Albert Frère est loin d'être petit, tous les sens du terme d'ailleurs. Oui, Albert Frère, qui effectivement est sorti de RTL Group pour prendre une participation dans Bertelsmann. Et dont on sait les intérêts qu'il a pu jouer dans la mise en place et dans l'actionnariat de TVI, c'est-à-dire RTL, Bell RTL, Club RTL, etc. Et on retrouve ses lieutenants, c'est-à-dire Jean-Pierre Delaunoy, Didier Bellens, donc BBL, le groupe Bruxelles Lambert, Général de Banque, etc., qui sont derrière TVI. Alors, voilà, donc, presse francophone quotidienne, bon, que ce soit Mediabel, que ce soit Rossel. Le matin, évidemment, c'est un peu particulier vu l'histoire du journal Le Matin.
Là, ce serait plutôt une connivence un peu délicate parfois avec le monde politique, en l'occurrence.
Oui, le monde. Oui, mais bon, l'actionnariat, bon, il y a 25%, c'est la région wallonne, et puis 75%, c'est un actionnariat privé, c'est-à-dire la financière du matin. Et alors, Presse Alliance, c'est-à-dire Georges Ghosn, qui est notamment François, mais qui a fusionné ou racheté, enfin. Ça un peu comme on veut, par un groupe italien Poligrafici. Et donc on retrouve dans le conseil d'administration du journal Le Matin différentes personnalités, notamment Jacques van den Bosch, je pense, pour ne pas me tromper en disant qu'il est l'ancien bourgmestre socialiste de Serret, je ne comprends pas, Georges Ghosn évidemment, des personnalités du monde syndical de la FGTB. Et donc, disons que Le Matin est encore dans une situation un peu particulière par rapport aux autres quotidiens, puisqu'on a un actionnariat à la fois public et relativement fort du monde syndical. Donc là, disons que les problèmes de connivence ou de contrôle de l'information se font plutôt sur des conflits entre, par exemple, Michel Nollet et Roberto Durazzo, pour donner un exemple. Pas besoin de rentrer dans les détails. Donc là, à nouveau, certes, un média qui est plus proche du monde politique, du monde public et du monde syndical, mais où il y a aussi des effets de l'actionnariat sur le discours.
Alors là, on a un peu brossé le tableau justement de l'actionnariat, mais quelque part, les termes de, ou plutôt le dispositif de l'embuscade est mis en place, mais en même temps, ce ne sont pas ces gens-là qui écrivent les journaux. Alors, il y a des journalistes quand même qui écrivent, et on imagine bien que tous les gens que vous venez de citer ne sont pas là avec un crayon rouge ou ne viennent pas derrière le dos des journalistes tenir leurs plumes. Qu'est-ce qui fait, d'abord, quels sont les effets du système que vous venez de décrire? Quels sont les effets visibles quand on tient un quotidien en main? Et deuxièmement, comment se fait le mécanisme pour passer de quelque part l'autorité de l'actionnaire à l'encre, enfin les mots qui sont écrits dans le quotidien?
Alors, il me semble que les effets de ce complexe médiatico-industriel, pour un peu retourner la formule de Roosevelt, le complexe militaro-industriel, sont multiples. Il y a des effets, bon, du côté tout d'abord des actionnaires et du capital. Je dirais c'est tout profit. Et ce sont des retombées financières. La presse est une marchandise qui se vend comme une autre, contrairement à ce que certains disent. C'est une promotion commerciale des entreprises, notamment via la publicité. Ce sont des intérêts politiques. Le rôle diplomatique que peut jouer la presse ou un bon journal pour obtenir des contrats à l'étranger n'est pas négligeable. Possibilité de faire pression sur les campagnes d'hommes politiques qu'on va dénigrer ou soutenir dans la presse et à partir desquelles on pourra éventuellement après obtenir certains intérêts. Et puis des intérêts d'ordre idéologique, c'est-à-dire criminalisation des résistances sociales, criminalisation du secteur public et des fonctionnaires, notamment associés à la léthargie, discours de propagande vis-à-vis du néolibéralisme, hagiographie patronale, etc., etc. Donc il y a des intérêts économiques, politiques et idéologiques pour le capital, disons. Alors, ce qui nous intéresse évidemment, c'est les effets que cela peut avoir sur l'opinion, sur le journalisme et surtout sur l'information que l'on lit au quotidien. Alors, il ne faudrait pas croire évidemment qu'il y a un lien mécanique, c'est-à-dire le capital contrôle l'information en Belgique, il y a un effet de censure directe. Je pense qu'il y a probablement encore, comme exemple d'Adecco, probablement des effets de censure, de manipulation tout à fait explicite de l'information.
Notamment l'affaire Philippe Val, justement.
Notamment l'affaire Philippe Val, il doit avoir probablement enfin, on pourrait donner d'autres exemples, mais des choses assez équivalentes en Belgique. Mais il me semble que le contrôle se fait d'une façon un peu plus vicieuse. L'information, la presse, est depuis longtemps sous le contrôle du monde privé dans un système de libéralisme économique. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a vu arriver à la tête d'entreprises comme Mediabel, où on a à la tête de Philippe Delannoy, des managers. Des gens qui ont une certaine expérience véritablement dans le monde industriel et qui gèrent l'entreprise de presse comme une entreprise métallurgique, avec férocité, avec force, le souci de rentabilité, de rigueur, de flexibilité, etc. Et donc on assiste à une prolétarisation croissante du journalisme, pour reprendre une expression d'Alain Accardo, qui est un sociologue français qui a consacré de nombreux travaux sociologiques donc sur la profession aujourd'hui du journalisme. Donc, prolétarisation constante, c'est-à-dire flexibilité maximale. Des journalistes, il n'est pas rare qu'ils soient contraints à écrire deux ou trois articles, pardon, par jour. Donc, on est pris par le temps. Moins de possibilités de porter un regard critique, soumis à une pression incessante de ces professionnels de la communication. Et donc, on préfère rédiger un article tout fait, qui est un dossier qu'on a reçu d'un attaché de presse, que de prendre le temps, parce qu'on ne peut pas faire autrement dans ces conditions de flexibilité, que de prendre le temps d'avoir un recul critique, de recouper l'information, de lire d'autres ouvrages alternatifs, etc. Et donc, ça a un effet, évidemment, direct à un moment donné sur l'information. Et donc, une connivence qui se fait parfois par des pressions directes, qui se fait par cette prolétarisation et cette soumission aux professionnels de la communication, des attachés de presse, disons. Connivence aussi d'ordre social, il ne faut pas se cacher. Je ne parle pas ici de la plupart des journalistes, je parle des responsables de rédaction. Les rédacteurs en chef et les élites éditoriales sont dans la stratification sociale à une position médiane. Ils appartiennent à cette classe moyenne supérieure ou à cette petite bourgeoisie qui, à nouveau, comme le montre très bien Accardo, a un intérêt à la fois à critiquer le système, mais dans certaines limites, et en même temps une préservation à l'ordre établi et un centrisme sociologique, c'est-à-dire qu'on est de gauche ou on est de droite, mais on ne dépasse pas le chiracisme ou le jospinisme, si vous voulez. Donc, bon, voilà toute une série d'éléments qui expliquent cette connivence qui se traduit par un discours de célébration du système, disons.
Et avec cette prolétarisation ou cette précarisation d'une part et cette complaisance de l'autre, comment tient le mythe du journalisme dans une interview avec Pierre Carle, il l'évoquait, ce mythe qui finalement devient incompréhensible parce que ils n'ont plus rien pour eux, ces pauvres journalistes.
Alors je dirais les mythes sont multiples. Il y a premièrement le fait de concentrer la question de la connivence média-pouvoir sur la relation média-politique, comme l'a fait notamment l'écran témoin. Alors il me semble que ça fait bien longtemps que les politiques ne contrôlent plus les médias, si on accepte le cas de la RTBF, mais jusqu'à quand? Donc la connivence est plutôt entre médias et économiques. Voilà un premier monde économique, pardon. Voilà un premier mythe. Deuxième mythe, c'est celui de la liberté d'information en Belgique. On ressasse les discours et les lieux communs sur la censure et le contrôle de l'information dans les anciens pays, je ne dirais pas communistes, mais staliniens. Bon, on ne va pas, évidemment, je pense qu'il faudrait peut-être nuancer les propos, mais on ne peut pas aller contre cette réalité-là, ce serait une forme de négationnisme. Donc c'est vrai, ces choses se sont passées, mais il serait peut-être intéressant de regarder aussi chez nous comment se passe, de manière plus implicite et plus vicieuse, le contrôle de l'information. Donc deuxième mythe, la liberté du journalisme, identifié à la liberté d'entreprise et donc au pays de type libéralisme économique. Et alors l'autre mythe, l'autre grand mythe du journalisme, c'est cette idée que les médias sont contrôlés par des familles de la presse. Rossel, Lehaudet, Denolf, Claes sont présentés comme Dupuis, comme des familles n'ayant d'intérêt que dans le monde de la presse et où, disons, l'héritage des groupes de presse se serait transmis de génération en génération sans contact avec le monde industriel et financier. Or, ce que cette conférence veut montrer, c'est que là où les médias ne sont contrôlés que par soi-disant donc des groupes familiaux, ce sont des gens qui ont également des intérêts ou qui ont eu des intérêts dans le monde industriel et financier. Donc, ce sont là trois grands mythes que l'on retrouve en permanence dans le discours de presse ou dans le discours des différents pouvoirs et qui contribue à masquer véritablement la réalité aujourd'hui du journalisme et qui trompe l'opinion en permanence.
Cette situation est bien noire, mais dans la marchandisation croissante du monde, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour en sortir? Et d'abord, est-ce qu'on peut imaginer en sortir?
Alors, est-ce qu'on peut imaginer en sortir? Je dirais oui, de toute façon. Les modifications, ce sont beaucoup des modifications qu'a connues l'ordre mondial, se sont faites à des moments où on ne les attendait pas. Donc, c'est bien là le discours du pouvoir de nous dire les choses sont ainsi, hein, le mythe de l'inanité. On ne peut pas faire autrement, ça ne sert à rien de vouloir changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Un travail d'éducation. Éducation qui ne doit pas être prise ici au sens prétentieux des intellectuels sur les journalistes, mais éducation du monde journalistique, d'ailleurs, prise de conscience des journalistes, du système et de la dimension sociale, économique et idéologique dans laquelle ils travaillent. Éducation de l'opinion publique qui doit savoir, par exemple, lorsqu'ils lisent un article sur l'énergie nucléaire dans tel ou tel quotidien, que peut-être Electrabel n'est pas très loin. Donc, savoir quels sont les groupes qui contrôlent les médias qu'ils lisent au quotidien. Et alors, évidemment, au-delà de ce travail au quotidien, l'objectif final, si l'on peut dire, mais bon, je n'aime pas vraiment tout ce qui est eschatologique, mais l'objectif final, évidemment, c'est un mouvement social qui pourrait unir consommateurs, il faut bien dire ce que c'est, ce sont malheureusement des consommateurs aujourd'hui, les lecteurs ou les téléspectateurs, journalistes, qu'ils soient salariés reconnus, qu'ils aient un statut stable, contrat à durée déterminée, freelance, indépendant, technicien du livre, technicien du journalisme, ouvrier de la presse, qui pourraient donc s'unir dans un mouvement social capable donc de revendiquer une véritable autonomie du journalisme et, in fine, une déprivatisation du secteur de l'information en Belgique. Alors ça peut paraître aujourd'hui évidemment tout à fait utopique, mais on n'avance pas sans utopie. Et puis vous savez, en 1788, certaines personnes ne s'attendaient pas à voir la République, ou en 1916, certaines personnes ne s'attendaient pas à voir des révolutions socialistes dans un certain pays, pour ne pas le citer, ou en 67, on n'attendait peut-être pas nécessairement l'explosion de 68. Donc l'histoire, contrairement justement à cette mythologie bourgeoise, n'est pas naturelle, elle n'est pas donnée, elle se construit en permanence, et donc il faut pouvoir espérer un jour modifier les choses.